Bifurcation.
Bifurcation.
Bifurcation, épisode 7, vélo, village de l'eau et herbeau.
Bonjour.
Bonjour.
On espère que tout va bien pour vous. Ce mois-ci, on a encore de nombreuses choses à vous partager.
Pour notre mois de juillet, tout le programme est dans le titre. Donc début juillet, on est allé voir un festival d'art de rue à Nevers. Pour nous, l'art de rue, c'est celui qui vient au contact des gens, en plein air et le plus souvent gratuit. Ça le rend très accessible et ça, on adore. Voici quelques spectacles qui nous ont marqués.
Vilain chien de la compagnie La Générale Posthume. Alors c'est défini comme du clown punk et de la musique live. Moi j'ai beaucoup ri et effectivement la musique est en live, il y a un quator donc de clowns et de musiciens et musiciennes qui nous font passer un moment assez rigolo autour du sujet de la domination de classe et des enjeux de pouvoir.
En reprenant les codes du cirque. On a aussi vu le spectacle Maison Renard qui est plutôt du théâtre. Bertrand en est convaincu, la fin du monde c'est pour demain. Heureusement, son entreprise détient la solution. Préparons-nous au pire et espérons le meilleur. Il nous a donc présenté sa solution, la BAD, base autonome durable, qui ressemble légèrement à un bunker, et présente avec son entreprise cette solution unique. Tout ça en argumentant avec des faits scientifiques. C'est à la fois drôle, cynique et surprenant. Si vous avez l'occasion, on ne vous raconte pas la chute. Allez-y. Et pour retourner de Nevers à Orléans, on a enfourché nos vélos pour une petite semaine. Nous avons donc suivi les méandres de la Loire sur 230 km. De quoi en prendre plein les mirettes. On passe par des paysages de Loire et de canaux, avec notamment le canal de Briare. C'est un canal artificiel construit au XVIIe siècle qui passe donc par Briare, Montargis, Rosny-les-Sept-Écluses, Nemours et qui rejoint la Seine pas loin de Fontainebleau.
Tu peux finalement aller de Briare à Paris en bateau avec ce chemin si tu veux. Moi, je trouve ça assez étonnant de voir ces chemins aquatiques qui traversent une partie de la France et qui relient des destinations que je connais par ailleurs.
On recommande vraiment ce parcours de la Loire à vélo. C'est plat, bien balisé et avec des possibilités de camping partout. Et puis, c'est réalisable avec des vélos comme les nôtres, donc des vélos standards, type vélo tout chemin, avec des porte-bagages et des sacoches. Ça nous a donné envie de pédaler dans d'autres contrées à l'avenir.
Et alors Flavie, est-ce que c'était du bonheur tous les jours ?
Pas tout à fait tous les jours. On a une petite anecdote à ce sujet. Pendant les quelques jours où on a pédalé, c'était du plaisir, tout se passait bien, jusqu'à une journée où on a commencé à pédaler et j'ai trouvé vraiment que j'étais très fatiguée. C'était vachement dur de pédaler, jusqu'à ce qu'on s'arrête et qu'on comprenne en fait que j'avais perdu un boulon. J'avais pété un boulon. Et donc, mon porte-bagages avant s'était décroché et mon frein était libre et donc venait se coller à ma roue avant, ce qui me ralentissait légèrement. Et pour toi, Valérian, c'était que du bonheur ?
Oui, tout à fait. Surtout les deux nuits d'orage que nous avons eues sous la tente. La première nuit d'orage, on a fini par se réfugier dans des toilettes du camping. Et la deuxième nuit d'orage, nous avions tellement bien choisi notre emplacement que nous étions dans une énorme flaque d'eau. Donc on s'est réveillé en pleine nuit et on a dû déplacer la tente parce qu'on était vraiment couché sur une flaque, quoi.
Je ne sais pas si vous avez déjà testé les matelas d'eau, mais ça nous faisait un peu cette sensation.
De retour à Orléans, on a pris le temps de préparer à nouveau le camion. Car cette fois-ci, on part pour un mois et demi.
Ce nouveau périple commence par quelques jours au village de l'eau, dans la commune de Melle, dans le Poitou. C'est un événement organisé par le collectif Bassine Non Merci et les Soulèvements de la Terre.
Pour moi, c'était une façon de comprendre les enjeux autour des méga-bassines, dans une optique de partage de l'eau pour la production alimentaire.
Commençons par contextualiser. De quoi on parle quand on parle de méga-bassines et pourquoi c'est controversé ?
Les bassines sont des retenues d'eau, imperméabilisées au fond par une bâche plastique épaisse, qui sont construites pour donner la possibilité à certains agriculteurs d'avoir une réserve d'eau pour irriguer leurs cultures. Elles sont remplies au moins partiellement par pompage dans les nappes ou les rivières.
On parle de méga-bassine quand elle fait plus de 1 hectare ou 50 000 mètres cubes. Et en moyenne, elles font ou vont faire 8 hectares, mais les plus grandes atteignent jusqu'à 18 hectares et peuvent contenir l'équivalent de 300 piscines olympiques.
Et après les JO, on voit bien à quoi ça ressemble.
Les porteurs de ces projets présentent les méga-bassines comme des solutions pour permettre aux agriculteurs d'avoir accès à l'eau, même en été et même en cas de sécheresse. Mais ce sont des projets contestés et en 2021 déjà, une tribune était publiée dans Le Monde à ce propos.
Voici quelques contre-arguments à ces projets qu'on a découverts au village de l'eau et que vous pouvez retrouver sur le site Bassine Non Merci.
D'abord, le modèle Bassine provoque une augmentation des volumes pompés à l'année. Donc les projets sont majoritairement pensés par les irrigants et irrigantes de manière à contourner en fait une nécessité de baisser les prélèvements. Et pour irriguer des cultures qui ont besoin de beaucoup d'eau. Il faudrait d'ailleurs peut-être repenser un peu la nécessité de ces cultures, car par exemple, pour 1 kg de maïs produit, il faut utiliser 350 litres d'eau. Et le maïs est principalement destiné en fait à nourrir des animaux d'élevage qui ne voient jamais un brin d'herbe. Donc on peut se poser la question de l'avenir de cette culture dans le contexte actuel. Arroser du maïs, puis le donner à manger à des animaux élevés en batterie, puis manger ces animaux, moi, ça me fait réfléchir.
Ensuite, être contre les méga-bassines ne veut pas dire être contre l'irrigation. L'irrigation est parfois indispensable à l'agriculture paysanne qui produit localement une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. Le maraîchage ne se conçoit pas sans eau, par exemple. Néanmoins, les volumes ne sont pas aussi démesurés que ceux des céréaliers irrigants connectés aux bassines. À titre d'exemple, un paysan maraîcher consomme environ 1000 à 5000 m3 d'eau par an, soit environ 20 fois moins qu'un exploitant raccordé aux méga-bassines du bassin de la Sèvre Niortaise.
On a aussi compris que l'installation des méga-bassines se faisait sans consultation ni ancrage territorial. Des recours ont été saisis auprès du tribunal de Poitiers et elles sont majoritairement considérées comme illégales. Pour faire quand même passer ces projets, le gouvernement a mis en œuvre une loi qui baisse le temps de recours possible et qui déplace les procès à Paris plutôt que dans le Poitou, le territoire de ces projets des méga-bassines où le sujet est donc mieux connu.
Il s'agit donc de militer pour une gestion collective et démocratique de l'eau afin d'assurer un partage des volumes prélevés pour des usages prioritaires et vivriers, couplé à des pratiques agricoles et d'irrigation économes en eau.
Par ailleurs, certaines grosses exploitations bénéficient de droits d'eau très élevés qui sont considérés comme acquis. Et ça au détriment de nouveaux paysans installés à qui l'accès à l'eau est parfois même refusé. Donc l'irrigation est vue par ces grosses exploitations comme un moyen d'augmenter leur production et les très importantes inégalités d'accès à la ressource fragilisent économiquement toutes les petites exploitations du territoire. Et pourtant, il faudrait favoriser l'installation de nouveaux agriculteurs puisqu'on est dans un contexte où il va falloir remplacer les agriculteurs qui partent à la retraite massivement.
Un dernier point qu'on partage maintenant, c'est que ces projets sont financés à 70% par de l'argent public. Et dans son rapport de juillet 2023, la Cour des comptes écrit « Le financement public d'infrastructures d'irrigation de terres agricoles devrait être conditionné à des engagements de pratiques agricoles plus respectueuses de l'environnement et à la réduction des quantités d'eau utilisées pour irriguer. » Cela n'est pas le cas actuellement.
Et donc, c'était quoi l'idée de ce village de l'eau ?
Quelques jours pour se former et s'informer sur ce sujet et plus globalement échanger sur les perspectives pour le monde paysan.
Il s'agissait également d'imaginer des moyens d'exprimer notre désaccord. En effet, les manifestations sont très régulièrement refusées par les préfectures et les porteurs de ces projets refusent les débats publics. Cela laisse selon nous peu de place à la réflexion collective sur un sujet aussi important et qui nous concerne tous, la gestion de l'eau, son utilisation, son partage équitable, puisqu'il s'agit finalement d'un bien commun.
Et les citoyens qui veulent exprimer leur désaccord collectivement ont donc peu de choix, si ce n'est la désobéissance civile, faire une action illégale du point de vue de la loi, mais légitime pour un objectif collectif.
On voulait aussi vous partager notre ressenti en tant que participant à cet événement.
Une super organisation.
J'ai vraiment été épatée, tout était très bien pensé. Vie collective à prix libre, temps de soins, physiques et psychologiques, bénévoles présents pour prévenir les situations de discrimination ou de sexisme, programme des interventions bien ficelées, etc.
Et puis un dispositif policier autour de l'événement, lui aussi de qualité.
Alors que, on vous le rappelle,
le village de l'eau était déclaré et autorisé.
Malgré ça, il y avait des contrôles d'identité à chaque aller-retour au village avec fouille des affaires. Il y avait aussi drones et hélicoptères presque en permanence au-dessus de nos têtes, même la nuit. Un poil oppressant comme ambiance. Et comme le dit l'un des slogans de ce mouvement,
Nobasaran. Et pour finir le mois, on est retourné 10 jours chez Yann en Anjou. Vous vous souvenez, il est notamment producteur de raisins de table.
Au programme.
Étalage de 20 tonnes de fumier. Dommage que vous n'ayez pas l'odeur. On a mis ça sur les rangs où il va faire des plantations d'arbres fruitiers cet hiver. Puis on a paillé par-dessus.
C'était sportif, mais ça s'est fait. Et puis, pour des arbres, l'idée c'est d'en mettre une seule fois avant la plantation pour favoriser un sol aéré, riche et vivant.
Entretien et taille des framboisiers. Il existe deux types de framboisiers. Les framboisiers remontants, qui ont deux périodes de production dans l'année, et les non remontants, qui n'ont qu'une période de production. Yann a des framboisiers non remontants. Pour lui, c'est mieux pour gérer la récolte et la vente sur une seule période de production, condensée sur 4-5 semaines. C'est ce qui convient le mieux à son organisation.
Quand on se trouve devant les framboisiers, on peut voir deux aspects de tiges, qu'on appelle des cannes. Donc les cannes sont brunes, quand elles ont 2 ans, elles sont lignifiées, et les cannes vertes, elles, ont poussé cette année depuis le sol. Elles porteront les fruits l'année prochaine.
Pour ces framboisiers, on coupe les tiges qui ont 2 ans à la base. Puis on garde une dizaine de tiges de l'année par mètre linéaire.
Enfin, on coupe la tête des cannes qu'on a gardées pour favoriser la fructification.
J'ai apprécié voir et faire ça parce que j'aimerais bien cultiver des petits fruits. J'avais testé en juin sur quelques mètres en m'appuyant sur la conduite des framboisiers décrite dans mes cours. Ici, nous avons fait 60 mètres linéaires, de quoi appréhender ce que ça peut représenter en termes d'effort et de temps de travail.
On a aussi fait l'effouillage de la vigne. Donc il s'agit d'enlever les repousses qui partent de la base ou sur le rameau principal du cep de vigne. Cela permet d'éviter que les maladies dues à des champignons ne se servent du feuillage comme d'un escalier pour remonter jusqu'en haut.
D'ailleurs, cet après-midi-là, on s'est retrouvé nez à nez avec une colonie d'abeilles qui avait pris place dans la vigne. En fait, il y a des ruches à proximité de la vigne et donc on est en train d'assister à un essaimage.
On y retourne en septembre, on devrait alors avoir la possibilité de goûter aux raisins.
Quand on parle de notre mois de juillet, difficile de ne pas revenir sur la période électorale, qui nous a bien occupé l'esprit en début du mois.
On vous fait un petit focus sur ce sujet, mais d'un point de vue agriculture, à partir d'une analyse des positions des partis politiques sur la bio et la PAC, faite par la Fédération nationale d'agriculture biologique. On commence par le parti communiste.
Pour le PC, la PAC ne répond pas aux besoins de notre société, en favorisant les grandes exploitations et en générant des inégalités entre territoires et entre productions. Les élus, Roussel, Chassaigne, déplorent la rémunération des aides PAC fondées sur l'hectare.
Ils proposent par exemple un soutien plus fort aux 60 premiers hectares et la dégressivité des aides PAC avec un plafond à 150 000 euros et des aides augmentées pour les fermes biologiques.
Pour la France insoumise, leur constat, c'est que la PAC actuelle est, je cite, « désastreuse pour le climat et l'environnement ». Bompard, 2021.
Il propose par exemple d'adopter un objectif ambitieux de développement de l'agriculture biologique jusqu'à 100% de la surface agricole utile de l'Union européenne pour 2050.
Quant aux écologistes, ils proposent par exemple la mise en place d'un nouveau pacte agricole qui viendrait, je cite, « changer les modes de distribution de la politique agricole commune pour qu'elle rémunère à l'emploi plutôt qu'à l'hectare ».
Ou encore la mise en place d'une visibilité sur 3 ans des revenus des agriculteurs engagés dans les changements de pratiques, notamment les agriculteurs bio.
Ensuite, pour le Parti Socialiste, le constat peut être résumé avec une phrase de Raphaël Glucksmann. Je cite encore « La PAC actuelle maintient 50% des agriculteurs dans la misère ». Fin de citation. Parmi les propositions, on peut retrouver l'évolution vers une politique agricole et alimentaire commune, construite sur une aide à l'emploi agricole et à l'utilité écologique, la mise en place de prix planchers rémunérateurs ou encore le soutien à l'organisation collective des producteurs.
Côté Renaissance, donc le parti présidentiel, globalement, il défend l'idée de développer le « en même temps », donc toutes les agricultures et toutes les adapter au changement climatique. Il considère donc qu'il ne faut pas prioriser une forme d'agriculture plus qu'une autre. Il y a un risque à trop encourager l'installation en bio, car, selon eux, la bio ne peut pas se développer exagérément. Par ailleurs, ils ne veulent pas d'interdiction sans solution. Il ne faut donc pas interdire de nouvelles molécules, mais plutôt donner des moyens à l'innovation.
Les Républicains, eux, n'expriment aucune position sur le financement des pratiques agricoles bénéfiques à l'adaptation et à l'atténuation du changement climatique. Le parti a cependant indiqué qu'il était important de conserver des aides au maintien en agriculture biologique. Voici des exemples de leurs propositions. Réorientation de l'enveloppe développement rural de la PAC vers des actions de recherche et d'innovation publiques pour développer des alternatives aux pesticides, notamment grâce aux nouvelles technologies génomiques, et maintient un système de paiement à l'hectare pour accompagner la compétitivité des fermes.
Enfin, côté RN, il déclare que rendre la PAC conditionnée aux pratiques écologiques est punitive. Dans leur programme, on ne trouve aucune mesure pour orienter la transition écologique de l'agriculture. Et par ailleurs, les prix planchers sont une proposition du RN depuis 10 ans.
Mais Jordan Bardella a exprimé sa désapprobation de la mesure dans la PAC en janvier dernier.
Sur les pesticides, le RN revendique un jugement au cas par cas, car certains produits utilisables en bio peuvent, selon eux, être plus dangereux que les molécules chimiques, autant pour la biodiversité que pour la santé. Pour analyser encore un peu plus cette situation, on pourrait lire les amendements qui peuvent être proposés soit au projet de loi de finances, soit directement concernant le plan d'urgence pour l'agriculture biologique qui a été proposé en début d'année. Il s'avère que selon la Fédération nationale de l'agriculture biologique, c'est LFI qui a proposé le plus d'amendements et qui a un programme le plus ambitieux sur ces sujets. Alors qu'à l'opposé du spectre politique, on a le RN qui, en 2022, prévoyait un plan de soutien de 5 ans aux filières biologiques et qui, en l'occurrence, a déposé 2 amendements contre la bio, notamment concernant l'enseignement de la bio dans les lycées agricoles ou encore l'installation en bio. Et puis, le groupe s'est abstenu lors du vote du plan d'urgence des 271 millions pour l'agriculture biologique.
On vous a fait ici un résumé dans les grandes lignes. Si vous voulez avoir un peu plus de détails sur chaque vote de chaque parti, vous pouvez avoir les informations sur les liens qu'on va mettre en description.
Nous étions à Nevers lors des résultats pour le festival d'art de rue et ouf, ils ne sont pas venus trop casser l'ambiance.
Ce mois de juillet sonne aussi les 6 mois de notre bifurcation.
Bifurcation.
On vous partage donc notre retour d'expérience sur la formation, la vie en camion et le rythme itinérant.
Concernant la formation, je suis vraiment contente d'apprendre les gestes techniques, le contenu théorique et de comprendre un peu plus le milieu agricole. Mais je ne pense pas m'installer en tant que maraîchère pour le moment, c'est un métier qui demande 1000 compétences et assez dur physiquement. Si je voulais un jour m'installer, j'aimerais faire au moins 1 à 2 saisons avant en tant que salarié pour bien maîtriser les étapes de culture. Par contre, après la formation, j'aimerais bien travailler dans ce milieu, dans une asso par exemple, pour continuer à découvrir le milieu et utiliser mes compétences en gestion de projet, recherche de financement, pour cet enjeu majeur qu'est l'alimentation durable. On verra les opportunités qui se présentent dans 1 an. Et puis, dans quelques années, si Valérian est installé et qu'on peut se permettre de travailler tous les deux sur la ferme, ça pourrait me tenter de revenir plus au métier agricole en tant que tel. Et pour toi, Valérian ?
Pour moi, Valérian ? Les 6 mois passés m'ont apporté quelques billes, je trouve. Un peu sur les aspects théoriques avec les cours et un peu sur les aspects techniques avec les stages. Dans l'ensemble, ça m'apporte aussi beaucoup d'idées pour nourrir mon projet d'installation. J'aimerais faire du raisin de table, des petits fruits et des fruits à coque. Avec en plus une piste à explorer, le maraîchage au sein du verger. Le tout en bio et en vente directe. C'est évidemment changeant en fonction des rencontres, des découvertes ou des apprentissages, ce qui fait que pour le moment, j'ai un projet moins arrêté qu'en début de formation. Néanmoins, je ne me sens pas encore assez outillé pour m'installer. Je commence tout juste à entrer dans la connaissance précise. Par exemple, à quel moment intervenir sur les cultures, quelle taille effectuer, quand récolter, à quelle fréquence, quel temps de travail. À partir d'octobre, j'aurai terminé tous mes stages. Donc ça me donne l'occasion de bricoler avec l'atelier paysan, de voir des vergers maraîchers, d'approfondir mes connaissances et d'explorer des pistes pour l'installation. Comme les espaces tests des groupements d'agriculture biologique.
Qu'est-ce que c'est un espace test ? L'idée, c'est d'avoir un terrain où on est responsable des cultures, mais en étant accompagné par le GAB, en l'occurrence, et puis d'avoir une source de revenus assurée pour nous permettre de nous exercer avant une installation éventuelle.
Et à partir de janvier 2025, nos devoirs sont spécifiquement sur notre projet d'installation. Donc en suivant le rythme de la formation, je travaillerai plus précisément mon projet à ce moment-là. Après la formation, viendra l'installation. Pour bien la préparer, il faudra forcément que je retravaille pour éviter de puiser dans ma trésorerie perso. D'après les échanges avec les personnes qui se sont installées hors du cadre familial, l'accès aux terres semble long et pas facile. Donc j'ai imaginé 2 ans de démarche pour trouver un terrain.
Hors cadre familial, ça veut dire que tu ne reprends pas la ferme d'un de tes parents.
Il y a aussi le parcours 3P.
Le parcours 3P, c'est un parcours qui permet de compléter la formation qu'on aura et d'avoir droit aux aides de jeunes agriculteurs, aides qui sont parfois indispensables car c'est un apport de trésorerie pour le projet. Le parcours 3P est proposé par la Chambre de l'Agriculture.
J'imagine donc une formule qui puisse combiner un travail salarié, la recherche de terrain et le parcours 3P. Tous ces éléments me font me projeter sur 2027. Et ça, c'est assez difficile pour moi, car ça me demande de patienter encore. Mais comme on m'a dit à ce propos, prendre son temps, ce n'est pas perdre son temps. Évidemment, tout ça est soumis aux aléas et aux opportunités que je rencontrerai d'ici là.
Niveau itinérance maintenant. Le camion remplit bien ce qu'on avait imaginé, on passe partout, on est assez discret et c'est confort. Ça nous laisse vraiment une souplesse pour nos différentes envies. Les woofings, les stages, les moments chez nos proches. Et puis dernier test en date, les vélos dans le camion. Une fois notre lit plié, on peut les mettre dedans. Comme ça, pas besoin d'installer d'attelage pour le moment. Et avec les vélos, on peut se garer plus loin des centres-villes, puis pédaler pour nous y rendre. Ou encore laisser le camion posé pour notre semaine de stage et faire les petits trajets en pédalant. On a une sensation sympa de liberté.
On est aussi content des semaines qui s'enchaînent et ne se ressemblent pas, avec des rencontres riches.
On arrive maintenant à s'adapter à un nouveau rythme en fonction des personnes avec qui on passe la semaine et c'est assez agréable. Et puis, on change souvent de lieu, ce qui nous permet de profiter de nos week-ends, par exemple, pour aller découvrir quelques coins sympas et visiter les environs. Moi, c'est vraiment ce qui me manquait dans notre vie en Île-de-France, donc je profite.
Voilà pour ce mois-ci.
Avant de clôturer cet épisode, voici nos recommandations culturelles du mois.
Vous pouvez lire le magazine Métal Hurlant. Métal Hurlant, c'est un magazine de science-fiction auquel je suis abonné. C'est un magazine qui a été édité déjà dans les années 80, il me semble, et qui est réédité maintenant avec des nouvelles histoires. C'est de la bande dessinée et des articles qui parlent de science-fiction. Voilà, je vous conseille parce que moi j'adore ça, la science-fiction, et que ici on peut découvrir des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, des dessinateurs, des dessinatrices. Et selon moi, la science-fiction, c'est une façon de projeter le futur, d'imaginer notre monde et de le questionner, et ça, j'aime bien.
De mon côté, ce sera un livre qui s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière » de Panayotis Pasco, qu'on connaît plutôt pour son humour et qui cette fois se révèle sur d'autres thématiques. Ça m'a accompagné pour mes lectures d'été.
Dans le prochain épisode, direction la Bretagne. Au programme, 2 semaines dans le Morbihan, au jardin de Skoolbock. Une ferme qu'on avait déjà visitée il y a 3 ans lors d'un woofing. Et cette fois-ci, on y fait un stage. Puis, quelques jours dans le Finistère. Et fin août, on retourne à la ferme Sapousse, en Essonne.
D'ici là, portez-vous bien.
Kenavo.
Cet épisode est monté avec l'aide de Quentin de la MJC Bobby Lapointe.
Vous pouvez vous inscrire à la newsletter de Bifurcation pour voir quelques photos qui nous permettent d'illustrer nos propos et pour être informé de la sortie du nouvel épisode. Pour être ajouté à la liste de diffusion, envoyez un mail à bifurcationvf@proton.me. Mi, ça s'écrit M-E.